9h, 11h, Europe 1 Culture Média, Philippe Bondel.
Bonjour Joseph Ghosn.
Bonjour.
Vous êtes le directeur des rédactions de Vanity Fair, mensuel édité par Condé Nast. Condé Nast, c'est l'éditeur historique de Vogue, GQ et beaucoup d'autres, Glamour. Le magazine a été créé aux USA, Vanity Fair, en 1913. L'édition française lancée en 2013. Le numéro d'avril sort aujourd'hui. Vous allez nous parler de vous. Et justement, votre édito est titré « Something About Us », quelque chose de nous. Et c'est également un titre de Daft Punk, musique. J'ai pris un risque en passant ce morceau parce que vous écrivez dans l'édito « À chaque fois que j'écoute Something About Us, je pleure. »
Tout à fait.
Même intérieurement parce que je sais ce que Daft Punk chante, que Daft Punk chantait là va résonner en moi jusqu'au dernier souffle. Que dit ce titre de vous, de votre journal, surtout c'est ce qui nous intéresse, et de l'époque ?
Ce titre, c'est, à chaque fois que je l'écoute, je ne sais pas si ça entend, mais j'ai beaucoup d'émotions en écoutant ce titre parce que c'est un titre qui raconte une génération. C'est sur le deuxième album de Daft Punk, c'est un de leurs titres les plus doux, les plus mélancoliques, c'est aussi un de leurs titres les plus beaux, les plus amoureux en fait, hein. C'est vraiment un vrai morceau d'amour.
Mais quel rapport avec Vanity Fair dont vous dirigez la rédaction et pourquoi l'avoir mis en exergue dans votre édito ce mois-ci ?
Parce que je crois que ce que Daft Punk a fait résonne encore en nous aujourd'hui c'est une ligne pour un journal comme Vanity Fair. Ce que ces garçons-là ont fait, c'est-à-dire leur exigence, leur contrat inconditionnel avec ceux qui les écoutaient. C'est un peu ça Vanity Fair pour moi, ou en tout cas n'importe quel journal, pour moi ça devrait être ça, c'est-à-dire c'est un contrat inconditionnel, c'est une vraie histoire d'amour entre vous qui l'écrivez, qui le faites, qui l'éditez, et ceux qui vous lisent. Ça doit vraiment être ça pour moi un journal, et c'est votre lecteur qui passe en premier. Et cette chanson en fait elle dit ça, dit c'est toi et moi, et pour moi Vanity Fair ça doit être ça, c'est toi et moi, c'est toi qui me lis et moi.
J'entends que vous avez la gorge un peu nouée.
Tout à fait.
Quel est le positionnement de Vanity Fair ?
Le positionnement de Vanity Fair, c'est deux choses. C'est du glamour et de l'investigation. C'est Hollywood et des enquêtes.
Dans Stratégiste, en décembre 2019, j'ai trouvé cette définition qui a été donnée par le journaliste Emmanuel Poncet. Il dit, Vanity Fair, écoutez bien, c'est la bourgeoisie post-rock, French chic et intello.
Je reconnais bien là Emmanuel Poncet.
Ça vous va comme définition ?
Je suis pas certain de cette définition, non. Je pense que Vanity Fair, c'est bien plus que ça.
En anglais, ça veut dire la foire aux vanités.
Absolument.
En gros, si on suit le titre, c'est raconter les faiblesses et les turpitudes des grands de ce monde, des riches et des puissants.
C'est exactement ça. Vanity Fair, c'est à la fois les coulisses du pouvoir, et le pouvoir, il peut être à la fois autour de l'argent, mais aussi, c'est un pouvoir très symbolique, c'est-à-dire c'est Hollywood, c'est ce que vous voyez sur le grand écran.
Puisque vous parlez d'argent, est-ce que c'est un journal de luxe ?
C'est un journal qui est édité par Condé Nast, qui est une entreprise,
Mais les gens à qui vous adressez ?
Non. Je m'adresse.
Ah bon ? Je vais vous dire le sens de ma question, c'est qu'il y a la quatrième de couve, donc je le montre, vous pouvez nous voir sur europe1.fr. La une, c'est Aya Nakamura, on va en parler. Ouais. Et on se retourne, c'est la quatrième de couve, c'est un bracelet Cartier. J'ai regardé, il est à 256 000 euros, le bracelet.
C'est une publicité, ouais.
Je sais. Il n'y a pas ça dans les magazines télé. Il n'y a pas de la pub pour un bracelet. Je vous le reproche
bien
pas.
Quand
on tourne les pages, la première double de pub, c'est Dior. On tourne la page, la deuxième pub, la deuxième double, c'est Chanel. On tourne la page, la troisième, c'est Dolce & Gabbana. On tourne la page en face de votre sommaire, c'est une pub pour le bijoutier Van Cleef. On tourne la page en face de l'ours, c'est le bijoutier Chaumet. Et en face de votre édito, c'est Armani. On est chez les SCSP, plus.
Absolument. Oui. C'est un journal. C'est un journal de luxe, c'est un journal qui est dont le modèle est un modèle de publicité. C'est-à-dire on le vend en kiosque, mais on a aussi des annonceurs. Et c'est aussi ça qui fait la force du journal, c'est-à-dire que c'est la publicité qui permet à Vanity Fair de vivre aussi.
C'est davantage la pub que les ventes en kiosque.
C'est les deux. C'est un modèle comme tous les autres. C'est un modèle complexe comme tout. Mais ce qui est certain, c'est que c'est un modèle publicitaire.
Je vais poser la question différemment. Est-ce que ces publicités sont là pour faire vendre des produits avec un public qui a les moyens d'acheter ça, comme quand vous achetez Belle Demeure et que vous avez les moyens de vous acheter un château en Sologne, vous avez cette chance-là, ou est-ce que ce sont des produits qui sont là pour faire rêver votre lectorat ?
En fait, il y a ce qu'il faut voir, c'est que dans un magazine comme Vanity Fair, mais aussi dans un magazine comme Vogue, il y a un vrai contrat de lecture avec, avec le lecteur et la lectrice. Et ce contrat fait que les gens qui nous lisent s'attendent à avoir des publicités et ce genre de publicité. Et quand on fait des études, quand on interroge les gens sur les gens qui nous lisent, ils disent oui, ces publicités-là, elles me font rêver. Et il y a ça, en fait, dans Vanity Fair. Il y a aussi ce côté... on vous fait rêver, ces grandes publicités, ce couloir de pub, il est au début, en fait, il nous fait vivre, mais il fait aussi rêver nos lecteurs, et à nous aussi d'organiser la façon d'en parler.
On va parler du contenu de Vanity Fair. Nous sommes avec Joseph Ghosn, c'est le directeur de la rédaction du magazine. On va parler du papier, on va aussi parler d'Internet, parce que parfois on vous présente même comme un geek, en tout cas un immense connaisseur. Culture Média continue, à tout de suite.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
En compagnie de Joseph Ghosn, le directeur des rédactions de Vanity Fair. Vanity Fair mensuel, aujourd'hui en kiosque, avec Aya Nakamura en couverture. 4,50€, le magazine papier. Qui sont les gens à qui vous intéressez dans ce magazine? Sur qui mettez-vous le projecteur?
Le projecteur, c'est Ce qu'on essaie de faire, enfin ce qu'on fait, c'est raconter des histoires qu'on n'a pas lues ailleurs. Et donc, quand je décide de mettre Aya Nakamura en couverture, c'est pour plusieurs raisons. La première étant que j'ai l'impression que c'est une icône d'aujourd'hui.
C'est vrai.
Que par ailleurs, les chiffres le montrent, hein, que c'est la femme, la chanteuse la plus écoutée, la chanteuse française la plus écoutée dans le monde, et que j'ai envie de raconter son histoire, mais que j'ai envie de la raconter en profondeur. Et donc, de passer du temps avec elle. Et d'aller voir un peu dans les coulisses comment Aya a construit sa carrière et comment tout ça se met en place. Donc c'est un peu ce modèle-là, Vanity Fair. C'est raconter les coulisses, trouver des points qui n'ont pas été éclaircis, par exemple, autour de personnalités ou d'histoires, ou même des rapports entre des gens, des conflits entre les gens.
Ou même du grand reportage. Moi, j'ignorais complètement qu'en 2020, les gendarmes de l'Oise avaient trouvé 10 tigres dans un semi-remorque garé devant une ancienne usine. Et il y a un long papier dans Vanity Fair. Je vous posais la question sur les gens qui vous intéressent, parce que j'ai regardé vos grands papiers, vos portraits de ce numéro. Alors en couverture, on l'a dit, il y a Aya Nakamura, article de 10 pages, puis un article sur Rimbaud et Verlaine, couple homosexuel, puis un article titré « Chercher la femme », c'est le portrait de la chercheuse qui est derrière le vaccin Pfizer, puis un portrait du basketteur Kobe Bryant, afro-américain, puis un sujet sur les musiciens pendant la crise. Il y a deux grandes photos seulement, Aloïs Sauvage et Clara Luciani, donc deux musiciennes, puis un portrait de la chanteuse Billie Eilish, puis le portrait d'une femme africaine accusée de sorcellerie. Parmi tous ces portraits, il y a un seul homme blanc hétérosexuel, Philippe Solers. Ouais. Est-ce que c'est un choix ou est-ce que c'est un hasard ?
C'est un vrai choix de ma part. C'est un choix que j'assume depuis très longtemps, depuis même avant Vanity Fair, à l'époque où je dirigeais un magazine qui s'appelait Grazia. C'est un vrai choix de mettre en avant des femmes, leurs histoires... Et pas uniquement des femmes d'ailleurs, mais voilà des histoires différentes, des histoires qui je pense font aujourd'hui et qui sont pas uniquement des histoires de blancs hétérosexuels mâles de plus de 60 ans qui ont du pouvoir. Ces gens-là ont sans doute leurs histoires racontées ailleurs. Moi, ce qui m'intéresse, ce sont des histoires différentes.
Vous êtes arrivé en janvier 2019, après être passé par les Inroc et Grazia, vous venez de le dire. Diriger Vanity Fair, c'est pas rien. C'était un poste que beaucoup de gens voulaient. Je vais citer Yves Bougon, qui est le PDG de Condé Nast. Il avait dit « On aurait pu avoir la moitié des rédacteurs en chef de Paris. Joseph Ghosn a proposé le projet le plus original et le plus moderne lors de son grand oral. » C'était quoi votre projet ?
Mon projet était assez simple, c'était de dire Vanity Fair, c'est un magazine qui a une ADN complexe, et cette ADN aujourd'hui, elle doit résonner avec le présent, avec le contemporain. C'est parce que, en fait, c'est un magazine qui pourrait tout à fait être dans la nostalgie et dans le passé et dans les grandes sagas, dans ces histoires-là. Pourquoi pas ? Mais mon projet, ça a toujours été de dire Vanity Fair, c'est un magazine vraiment d'aujourd'hui, de maintenant, et il faut que ça raconte aujourd'hui. Revenons juste à l'origine de Vanity Fair. C'est quoi l'origine de Vanity Fair ? C'est un magazine qui est créé à New York pour raconter pour raconter New York et pour raconter les gens qui font New York il y a un siècle et plus d'un siècle. Donc moi, c'est exactement ça ce que je veux faire. Je veux que ce magazine...
C'était satirique à l'origine. Oui, Vanity Fair, à la fois Vanité, oui, on sent bien que c'est, qu'il y a une notion d'acide là-dedans.
Tout à fait.
Or là, c'est plutôt agiographique. Quand vous faites le portrait de Aya Nakamura, je ne vous le reproche pas.
Bien sûr.
Mais l'ADN a un tout petit peu été modifié.
Évidemment, en un siècle, tout évolue. Mais l'idée, c'est ça. C'est-à-dire que de prendre le risque, de prendre le pari, de mettre Aya Nakamura en couverture. Ce qui n'est pas une chose évidente. Aya, elle a quasiment pas fait de couverture. C'est une de ses premières couvertures. Et parce que je pourrais être plus comment dire,
consensuel,
précautionneux et consensuel, et mettre de grandes actrices américaines, etc. Ce que je peux faire de temps en temps, mais je pense que il faut avoir des figures qui racontent aujourd'hui.
Et je le dis de mémoire, vous me corrigez si je me trompe, de mémoire, la couverture de la premier numéro de l'édition française, c'était Scarlett Johansson.
Exactement.
Donc exactement ce qu'on attend, la fille glamour américaine, blonde, à qui tout réussit.
Tout à fait. Mais qui était aussi à ce moment-là, j'étais pas à ce moment-là, mais ce qui était aussi à ce moment-là une figure très très importante du cinéma.
Bien sûr. Il y a également un site internet, pourquoi je vous en parle, parce que Stratégie, en décembre 2019, vous a présenté comme un geek. Et c'est vous qui aviez créé les sites internet des magazines du groupe Condé Nast.
Alors oui, j'étais chez Condé Nast entre 2008 et 2012. J'ai pas vraiment créé, mais les sites étaient un peu en jachère, un peu. Et j'ai formé les rédactions qui font toujours... Vogue, GQ, bon, plus Glamour qui s'est arrêté, AD je crois aussi.
Ouais.
Donc oui, j'ai beaucoup travaillé sur ça. En fait, j'avais quitté les Inrock à ce moment-là en 2008 parce que je trouvais que les choses se passaient beaucoup sur le web, ça commençait, et j'avais envie de voir. Et je me suis retrouvé chez Condé Nast où on m'a vite confié tous ces sites-là.
Alors justement, Vanity Fair, pendant le confinement, vous aviez lancé un journal de la quarantaine, quotidien et gratuit.
Ouais.
Vous avez eu quel retour, quelle réaction de ce journal gratuit ?
C'était incroyable. C'était vraiment incroyable. Je le dis avec presque autant d'émotion que tout à l'heure. En fait, ce qui s'est passé, c'est que la veille du confinement, je rassemble toute la rédaction et je leur dis on va se retrouver séparés. Il y a une crise qui est là, qui est en nous. On ne peut pas rester les bras croisés, se contenter de faire un mensuel. Donc on va faire un quotidien. On va transformer notre Vanity Fair en quotidien et on va faire des trucs tous les jours. Ce sera quelques pages et on va le donner gratuitement pendant la crise. Et c'était en fait une façon pour moi de maintenir le contact avec la rédaction, parce que je trouve que c'est hyper important d'être ensemble.
Quand vous le racontez comme ça, on dirait de la com interne.
Mais c'était pas ça. C'était vraiment de maintenir le contact, c'est de maintenir le contact du travail entre nous et de continuer à faire notre job et de voir en fait aussi jusqu'où la crise poussait notre journalisme et dans quel retranchement elle le poussait. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on pouvait imaginer à ce moment-là, chacun dans son confiné chez lui, qu'est-ce qu'on pouvait imaginer qui soit Vanity Fair, mais qui raconte aussi ce moment qu'on est en train de traverser. Et on l'a fait pendant 2 mois. Et ensuite, on l'a transformé en petit hebdo.
J'allais en parler, il y a Vanity Fair Hebdo qui existe maintenant.
Oui, c'est-à-dire qu'en fait c'est un hebdo intermittent, si vous voulez. C'est-à-dire là on l'a relancé parce qu'il y a un nouveau confinement, etc. Et qu'on avait envie de continuer à parler de choses. Il est un peu plus léger que le quotidien. Le quotidien était vraiment une réaction à l'époque. Et là, c'est une autre façon de réagir à l'époque. C'est aussi une façon pour nous de dire... ça va tellement vite que se contenter de faire un mensuel, c'est... pas du tout dans ma nature. Donc je pense qu'il faut aller au-delà.
Et j'y pense, en couverture du numéro du 3 avril, il y a un homme blanc hétérosexuel de plus de 50 ans qui fait mentir votre adage, c'est Jean-François Piège, le cuisinier, et qui raconte un truc absolument passionnant.
Oui.
Il raconte les restaurants dans lesquels il a envie d'aller, quand les restaurants seront ouverts, et il ne cite pas que les siens.
Et tout à fait, oui. Non, oui. Enfin, en l'occurrence oui, c'est un homme hétérosexuel, etc. Mais c'est surtout une couverture sur un des grands phénomènes, et un phénomène auxquels nos lecteurs sont très attachés, on s'en a rendu compte, c'est-à-dire la bouffe, la food.
Ouais. Vous êtes un ancien du magazine Les Inrock, Mathieu Pigas, le nouveau propriétaire des Inrock, a annoncé qu'ils allaient passer d'hebdomadaire à mensuel, ça fera un concurrent de plus.
Je ne suis pas sûr.
Vous avez vu Le Canard enchaîné ce matin, on y apprend que désormais, le service fabrication des Inrock, c'est-à-dire directeur artistique maquette, sera externalisé, ça fait 6 salariés qui passent à la trappe. Est-ce que c'est inéluctable dans vos métier ?
On voit bien que oui. Enfin, on voit bien que comment dire, il y a un mouvement vers ça. C'est-à-dire, il y a un mouvement vers de l'externalisation, vers des regroupements, etc. On le voit tous les jours quand on fait des magazines papier.
Faites attention parce que votre équipe vous écoute.
Oui, je sais bien qu'elle m'écoute. Pour le moment, j'ai la chance que ça ne se produise pas chez moi. Mais on voit bien ce mouvement-là. Mais on fait tout pour pour l'en empêcher.
Il y a une très très belle maquette, je le dis, je n'ai pas à donner mon avis, mais je le donne, dans Vanity Fair. Merci d'avoir été avec nous, Joseph Ghosn. Vous êtes le patron des rédactions de Vanity Fair, car la rédaction papier et la rédaction web, la sortie en kiosque est aujourd'hui, c'est Aya Nakamura en couverture. Merci d'avoir été avec nous en direct dans Culture Média qui continue. Il y aura le rappel des titres de 10h, puis nous recevrons Eva Rock pour son zapping du lendemain avec un doc sur les débuts très contestés d'une émission de télé-réalité. Et Jean-Luc Lemoine qui poursuit son stage avec un écran de veille plein de rebondissements. Notre invité, c'est l'animateur et désormais auteur William Lémergie, publie son premier roman Mirebalais ou l'amour interdit. C'est entre la cape et l'épée et un peu d'initiation érotique. Et puis dans les indispensables, un film récemment césarisé et un jeu vidéo des années 80. Il y en a pour tous les goûts. A tout de suite.
Europe 1, Culture Média, Philippe Vandel.
Je ne sais pas combien d'heures j'ai passé à regarder des séries. Et vous d'ailleurs. Vous êtes féru de séries, vous ne savez plus quoi regarder, vous voulez tout savoir sur l'envers du décor. Vous adorez simplement qu'on vous raconte des histoires.
Découvrez Sériland, le podcast d'Europe 1 Studio présenté par Eva Rock.
Sériland, c'est le podcast qui vous conseille les meilleures séries du moment. Vous pouvez le retrouver sur Apple Podcasts, Deezer ou sur votre plateforme habituelle d'écoute.